Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour les patrons de l'IA, vous n'êtes qu'un ordinateur de chair. Un texte de Laura Kelly au New York Times, paru le 26 mai 2026 dans la presse. La relation entre l'esprit et la machine fascine philosophes et scientifiques depuis que les machines existent. On a comparé le cerveau humain à l'horloge, au chronomètre et, maintenant, à l'ordinateur. Au début de l'intelligence artificielle, les universitaires parlaient à la blague de « machine de chair » pour faire référence aux humains. Les patrons de la techno ont commencé à s'approprier le terme. L'été dernier, Elon Musk a écrit sur X que « nous sommes tous de stupides ordinateurs de chair comparés à la super-intelligence numérique. » Époque révolue pour les humains? Andrej Karpathy, un des membres fondateurs d'OpenAI, a écrit sur X que la recherche en IA était autrefois effectuée par des ordinateurs de chair entre leurs périodes de repas, de sommeil et de divertissement. Ils se synchronisaient de temps en temps à l'aide d'interconnexions par ondes sonores lors du rituel de la réunion d'équipe. Cette époque est depuis longtemps révolue. Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, a déclaré en 2025 que « le cerveau est très spécialisé, les modèles d'IA aussi. Mais nous ne construisons pas un ordinateur de chair de 20 watts. Nous construisons un cerveau d'IA de 1,2 milliard de watts. » Cette comparaison entre l'humain et la machine et l'idée de la supériorité de la machine ne fait pas le bonheur du public, inquiet pour son avenir face à l'IA. Elle s'inscrit dans une tendance plus large. Les dirigeants d'entreprise en arrivent à penser que les humains ne sont pas tout à fait à la hauteur face à l'ordinateur. En février, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que s'il faut beaucoup d'électricité pour entraîner les robots d'IA, il faut aussi beaucoup d'énergie pour former un humain. Son propos a été dénoncé comme misanthrope et même dystopique dans la presse et sur les médias sociaux. Depuis longtemps, l'humain cherche à expliquer l'esprit à travers la technologie la plus puissante à sa disposition, rappelle Raphaël Millière, professeur à l'Institut d'éthique en IA de l'Université d'Oxford. Mais alors que la métaphore de l'ordinateur de chair était au début une analogie explicative, elle est désormais récupérée à des fins de marketing pour modifier la perception du public sur le degré d'humanité et d'intelligence des modèles de pointe, ajoute M. Millière. Cette comparaison est troublante pour le public, ne serait-ce que parce qu'être ramené à de la chair est sinistre et déshumanisant. En établissant des comparaisons entre l'IA et l'humain, on laisse entendre que, si les systèmes artificiels sont maintenant aussi bons ou meilleurs que le cerveau, alors nous devrions les traiter avec le même respect que les humains, affirme Rosa Cao, philosophe à l'Université de Stanford, qui étudie la relation entre les intelligences naturelles et artificielles. Il s'ensuivrait que les créateurs de la technologie devraient aussi faire l'objet d'une grande admiration, ajoute-t-elle. Le cerveau est sans doute un des objets les plus complexes, sinon le plus complexe, de l'univers connu, affirme Josh Redstone, philosophe à l'Université Carleton. Aucune analogie avec les machines ne parvient à saisir à quel point nos cerveaux sont sophistiqués, dit-il. Et bien que certains philosophes, lui inclus, trouvent l'analogie de la chair utile, le grand public n'aime pas penser à l'humanité de cette façon. L'analogie, dit-il, évacue ce que nous estimons spécial chez nous. En 2022, en réponse à une publication sur X d'un autre patron d'entreprise d'IA sur les humains et l'IA, Musk avait répondu « Notre ordinateur est fait de chair », en ajoutant un lien vers une nouvelle de 1991, « They're made out of meat », « Ils sont faits de chair », de l'auteur américain de science-fiction Terry Bisson. Dans cette histoire, deux extraterrestres sont stupéfaits de constater que les humains peuvent utiliser leur cerveau de chair pour penser. « De la viande qui pense, tu me demandes de croire en de la viande qui pense », dit l'un. « Oui, de la viande qui pense, de la viande consciente », répond l'autre extraterrestre, ajoutant « C'est juste de la viande, rien de plus, tu te rends compte ?» C'était « Pour les patrons de l'IA, vous n'êtes qu'un ordinateur de chair ». Un texte de Laura Kelly paru le 26 mai 2026 dans la presse.
Doit-on craindre l'Ebola au Canada? Un texte d'opinion de Marie-Ève Maurras, paru le 22 mai 2026 dans la presse. L'épidémie d'Ebola se propage rapidement, a alerté vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Le Canada pourrait-il être touché? Que doit-on savoir de cette maladie? Qu'est-ce que la maladie Ebola? L'Ebola est un virus qui a été identifié pour la première fois en 1976. La maladie touche les humains et d'autres primates. Elle peut être transmise par les animaux, mais aussi se propager par contact direct d'une personne à une autre, par exemple avec des fluides corporels ou du sang. Les surfaces contaminées comme la literie ou les vêtements peuvent aussi transmettre la maladie. Où en sommes-nous exactement avec l'Ebola? Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, RDC. En date du 22 mai 2026, il y avait en RDC près de 750 cas suspects et 177 décès suspects, a alerté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dans ce pays, l'épidémie se propage rapidement, a-t-il ajouté. Quels sont les symptômes de cette maladie? Au début, ça ressemble à des symptômes de grippe. On a de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, un mal de gorge. Quelques jours après, s'installent des symptômes digestifs, vomissements, diarrhée. Et après, on a l'atteinte au foie et aux reins. C'est là qu'on a un total body failure. On a des hémorragies, décrit la docteure Joanne Liu, professeure au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. L'une des difficultés du diagnostic d'Ebola réside dans le fait que plusieurs de ces symptômes se retrouvent également dans d'autres maladies infectieuses telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite. Cette fois-ci, c'est le virus Bundibugyo de la maladie d'Ebola qui circule. Ce qui est particulier, c'est qu'on n'a ni traitement ni vaccin spécifique, explique Mme Liu. Elle insiste, l'Ebola, ça ne saute pas sur le monde. Il faut être en contact avec des liquides biologiques et l'on n'est pas contagieux tant qu'on n'est pas symptomatique, ajoute Joanne Liu. De plus, contrairement à un virus comme la COVID, l'Ebola ne se transmet pas de façon respiratoire. Récemment, un vol d'Air France qui devait atterrir à Détroit a été dérouté vers Montréal. Un passager congolais se trouvait à bord. Qu'en est-il des voyageurs? Ancienne présidente de Médecins sans frontières, Joanne Liu a dirigé des interventions d'urgence lors de crises humanitaires et sanitaires, notamment pendant l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest. On a déjà vu des gens qui sont venus au Canada de pays où il y avait l'Ebola. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On sait comment faire. Là, je pense qu'il y a une surenchère de panique, dit la docteure Liu. À cette époque, des dizaines et des dizaines de Canadiens sont allés prêter main forte en Afrique et sont rentrés après avoir traité des patients atteints d'Ebola. Rien ne s'est passé, dit Joanne Liu. On a pris nos signes vitaux, on a été 21 jours à la maison à n'avoir de contact avec personne. On a attendu que le temps passe et on a regardé Netflix, dit-elle. Elle ajoute que le fait d'interdire l'entrée à certains ressortissants, comme le font les États-Unis, n'est pas recommandé par l'OMS et qu'il s'agit d'une mesure qui va à l'encontre des règles sanitaires internationales, qui préconisent de faire du « screening ». Il s'agit de s'assurer que les voyageurs n'ont pas été en contact avant avec des gens qui ont été malades. En général, on prend leur température, on pose un questionnaire. Il y a un travail qui est fait, dit la médecin. Pourrait-on avoir des cas au Canada? Les risques sont extrêmement minimes, dit Joanne Liu. La meilleure façon d'éviter d'avoir des cas ici, c'est de s'assurer d'endiguer l'épidémie où elle se trouve aujourd'hui. Et l'épicentre, c'est en République démocratique du Congo et quelque part en Ouganda, dit la docteure Liu. Elle appelle le Canada à être solidaire avec les Congolais pour les aider à combattre, notamment en fournissant des équipements de protection personnelle. Il faut aussi se préparer parce qu'on ne veut pas que ça arrive, ajoute Mme Liu. Comment? En sachant, par exemple, quel hôpital pourrait recevoir des cas d'Ebola. Sommes-nous préparés? Je pense qu'on l'est probablement sur papier. Je ne suis pas sûre qu'on le soit en pratique, dit Mme Liu. On s'était préparé en 2014-2016. Ils n'ont qu'à dépoussiérer le protocole, ajoute-t-elle. L'épidémie passe au niveau d'alerte maximale en République démocratique du Congo, rapporte l'agence France-Presse. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, RDC, représente désormais un risque très élevé pour la santé publique au niveau national, soit le niveau d'alerte maximale a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Des mesures de contrôle de l'épidémie insuffisantes et un manque d'accès pour les humanitaires complexifient la gestion de la maladie, selon Abdi Mahamoud, directeur des opérations d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires à l'OMS. Fin mai 2026, 82 cas ont été confirmés, dont 7 décès en RDC, a indiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'épidémie s'est propagée dans la province du Nord Kivu et sa voisine du Sud Kivu, coupée en deux par les lignes de front entre les forces congolaises et le groupe armé anti-gouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé de vastes pans de territoire depuis sa résurgence en 2021. C'était « Doit-on craindre l'Ebola au Canada? » un texte d'opinion de Marie-Ève Maurras paru le 22 mai 2026 dans la presse.
L'anglais devient l'unique langue de travail du Collège militaire royal à Kingston. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir. L'anglais est désormais l'unique langue de travail du Collège militaire royal, CMR, à Kingston, en Ontario, après des décennies où les deux langues officielles étaient permises. C'est ce que révèle une note interne d'abord apportée par le média franco-ontarien ONFR, puis consultée par Le Devoir. Le Conseil du Trésor a désigné la région de Kingston comme anglophone, est-il indiqué dans le document transmis aux membres du Collège et rédigé par le commandant du CMR, Pascal Godbout. Ainsi, écrit-il, l'administration interne, les réunions du personnel et les services centraux doivent principalement s'effectuer en anglais. Le français est désormais considéré comme acceptable dans les réunions et les communications internes lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, mais les points principaux doivent être communiqués en anglais, P, peut-on lire dans la note transmise aux membres mercredi, mais signée par le brigadier général Godbout en février 2026. Ces directives mettent fin à une tradition institutionnelle de bilinguisme pour les employés du collège en activité depuis 1876 et officiellement bilingue depuis 1969. Encore en 2025, la page du gouvernement du Canada consacrée à la dualité linguistique du CMR indiquait que l'apprentissage de l'autre langue officielle ne devrait pas se limiter aux cours obligatoires d'éducation et formation en langue seconde. Le CMR est un établissement bilingue et les activités quotidiennes peuvent avoir lieu dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, et la traduction est offerte au besoin. La page n'avait pas été mise à jour depuis le 17 février 2025 lorsque Le Devoir l'a consultée. L'éducation bilingue. Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux étudiants, les aspirants de marine et les élèves officiers, qui continueront à être instruits dans les deux langues officielles. Conformément à notre mandat national, l'instruction individuelle et l'éducation des membres des Forces armées canadiennes continueront d'être offertes en anglais et en français afin d'assurer le perfectionnement des officiers en langue seconde, est-il indiqué dans la note. Il convient de noter que la pratique actuelle consistant à alterner les langues officielles de la semaine, français du 1er au 15, anglais du 16 au 31, sera maintenue au sein de l'escadre d'instruction comme méthode de formation visant à promouvoir le bilinguisme. Le bilinguisme est désigné comme l'un des quatre piliers du Collège militaire royal, aux côtés des études, de l'instruction militaire et de l'entraînement physique. Le respect des droits linguistiques constitue un élément fondamental d'un environnement professionnel et inclusif, indique-t-on en conclusion de la note. Le député péquiste d'Arthabasca, Alex Boissonneau, qui a étudié au CMR, a réagi ce matin sur le réseau social X aux révélations de ONFR en clamant que le bilinguisme a toujours été une façade. À l'époque où j'y étudiais, on disait à la blague qu'il y avait deux langues officielles, l'anglais et le bilingue. Aujourd'hui, au moins, c'est clair, le français devient optionnel, a-t-il écrit. Situé dans la circonscription fédérale de Kingston et les îles, dont 1,4% des habitants parlent le français, selon le recensement de 2021, le CMR et les institutions fédérales ne sont pas légalement tenus de permettre à leurs employés de travailler dans les deux langues officielles du pays. C'était « L'anglais devient l'unique langue de travail du Collège militaire royal à Kingston », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir.
Elle court, la culture. C'est le titre d'une chronique signée d'Annie Laferrière, publiée dans la presse du 17 avril 2026. La culture, ça court sur la planète comme un furet. On la croit ici et elle est déjà là-bas. On pense qu'elle s'est installée pour toujours dans un pays ou même dans un mode de vie fait pour elle, et la voilà qui file ailleurs. Elle court et fait courir les foules en même temps, surtout à cette importante exposition de Monet au Artisan Museum de Toronto. Les gens grimpent avec une telle avidité vers l'étage où les attendent les tableaux de Monet qu'un collectionneur garde jalousement au Japon, auquel il faut ajouter l'apport important du musée d'Orsay. Comment un tableau respire sous le regard de ceux qui n'ont pu que le rêver pendant si longtemps et si loin de son point d'origine? Comment le désir grimpe les corps dans une foule? Observons attentivement ce groupe d'admirateurs face au déjeuner de Monet. On dirait une végétation attirée par la lumière qui vient d'une fenêtre ouverte. On repère aisément la culture dans un grand musée de Paris, New York, Londres, Venise ou même Montréal, pour ensuite la retrouver dans cette cahute près de la mer d'un pays si minuscule qu'on a du mal à la dénicher sur une carte. Je pense à cette femme qui gagnait si peu dans une usine près de l'aéroport de Port-au-Prince, mais dont les murs de l'unique pièce de sa maison étaient couverts de peintures primitives rappelant Matisse. « Tu es peintre ?» lui demandai-je. « Non, » fit-elle, « je voulais simplement cacher les trous et les taches sur les murs. » J'espérais en savoir plus, mais elle m'offrit pour toute réponse un sourire résigné. On découvre Sainte-Lucie, une petite île de 617 km² qui a donné Derek Walcott, ce poète fluvial qui a reçu le Nobel en 1992. On fait un saut chez sa voisine Saint-Thomas, un caillou de 81 km² qui a vu naître le peintre Camille Pissarro. Pissarro cherche désespérément à poser sur la toile cette lumière tropicale dont on ne sait si elle vient de la mer ou du soleil, pour reprendre l'image aveuglante de Rimbaud. Des jeunes gens continuent encore à quitter leur patelin, Chicoutimi ou Petit Goave, pour monter à l'assaut de grandes villes comme Montréal ou Port-au-Prince. Ils ont les yeux pleins d'un vert espoir, et ceux qui ne se laissent pas trop vite contaminer par la vie urbaine pourront apporter quelque chose de neuf à un monde vieillissant. Pour certains, la poésie est une affaire de vieux, plein d'adresse mais encore capable de ressentir des émotions inédites, jusqu'à ce qu'on découvre cette jeune poète de 16 ans qui parvient à perforer nos corps de ses vers cinglants qui ne prendront leur sens que des décennies plus tard, quand notre sensibilité aura véritablement bougé. On la croit, cette culture, chez un voleur comme Villon, alors qu'elle crèche chez un prince, Charles d'Orléans, pas moins poète que le Villon des pendus. La musique classique, si sophistiquée qu'elle donne parfois l'impression de lever le nez sur tous ceux qui ne montre pas patte blanche, ne dédaigne pas pour autant la grossièreté d'un jeune Mozart, obligé de préciser à son père, citation, « Je suis peut-être vulgaire, mais ma musique ne l'est jamais. » Fin de citation. La culture n'est pas toujours propre. Elle se roule parfois dans le fumier moral avec Céline ou se dilue dans l'alcool bon marché avec Bukowski. Sinon, elle broie du noir avec Kafka, se cache avec du charme, prend une chambre avec Virginia Woolf. Elle court, la culture. Et reste la seule capable de nous sauver de la bêtise révoltante qui semble triompher à Washington comme à Paris, mais ça passera comme une mode. Monet face au Kusai. Ce jour-là, à Tokyo, je me suis retrouvé, en moins de 3 heures, face à ces deux monstres, Okusai et Monet. Okusai est chez lui. De plus, il a peint la grande icône du Japon, le mont Fuji. On peut voir les 36 vues du mont Fuji et 10 estampes additionnelles jusqu'au 14 juin 2026, si vous êtes dans le coin. C'est une obsession chez lui, et parmi ses nombreuses tentatives de capter cette œuvre créée par la nature, on retrouve la grande vague de Kanakawa, la plus célèbre estampe japonaise qui a été exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'en juin dernier. Ce qui m'a impressionné, c'est de voir les Japonais en train de scruter les pièces avec une ferveur presque dérangeante. L'accrochage est étonnant. Les visiteurs ont le nez collé sur les tableaux. Sans un mot, ils observent le moindre mouvement du pinceau d'Okusai. Pendant des années, pour toute saison, sous des lumières différentes, le vieux peintre a travaillé pour eux. On entend des rires d'enfants toujours gênés par un silence prolongé. Mais étonnamment, la foule se prêche chez Monet qui, comme Okusai, est rongé par cette obsession de peindre la même chose. Hokusai a beaucoup influencé Monet. Les nymphéas doivent tant à la série sur le mont Fuji. On ne regarde pas Monet de la même manière qu'on le fait pour Hokusai, surtout à Tokyo. Si on dissèque Hokusai, on garde ici une respectueuse distance avec Monet. Face au déjeuner, on dirait des étudiants prenant des notes à un cours. Ce lien mystérieux qui ne s'est jamais relâché entre Hokusai, 1760-1849, et Monet, 1840-1926. Monet avait 9 ans quand Hokusai est mort à Edo. S'ils sont réunis aujourd'hui à Tokyo dans deux musées différents, c'est parce que l'art transcende le temps et les coutumes. Malgré l'espace accordé ici au Japon, c'est la Corée du Sud qui m'a impressionné par cette énergie qui déborde de partout. J'ai croisé ces jeunes gens si polis qui font de la K-pop, la dernière expression musicale qui semble être un mélange de rap américain et de manga japonais. Parenthèse, Gangnam style de psy. Fin de la parenthèse. Ils sont habillés proprement comme les Beatles et l'un des membres influents du groupe Felix ressemble à David Bowie. J'ai été frappé de plein fouet par cette murale. Brève description de cette photo de la murale. Cette murale est un immense quadrillé de lignes droites et verticales et horizontales, chacune formant de petites cases dans lesquelles diverses couleurs témoignent d'une présence d'un objet diversifié. Ça ressemble à la vue aérienne d'un quartier résidentiel très serré. Lecture de la légende sous la photo. La célèbre œuvre murale de Kang In-jong. J'appelle K-A-N-G, espace I-K, trait d'union J-O-O-N-G, Musée national d'art moderne et contemporain de Séoul. Reprise de la lecture du texte. Une traversée à la fois colorée, chaude, ludique et finalement inquiétante de notre matérialité quotidienne. Ces objets ramassés ici et là au fil des jours qui finissent par constituer l'autoportrait d'une époque jetable. On dirait une page manuscrite pour être défrichée après l'Apocalypse. Fin de cette chronique de Dany Laferrière titrée « elle court la culture », publiée dans la presse du 17 avril 2026.